Bonjour, le secrétaire général va vous présenter la ministérielle et il aura ensuite le temps pour répondre à quelques questions. Bonjour, aujourd'hui et demain, nous allons prendre des décisions préparatoires au sommet de l'OTAN du mois prochain. Nous commencerons par une séance consacrée au renforcement de notre dissuasion et de notre défense. Nous adaptons actuellement la structure de commandement de l'OTAN aux défis de l'avenir. Aujourd'hui, nous nous prononcerons sur une augmentation de nos effectifs et sur le lieu d'implantation de deux nouveaux commandements. Le premier, pour l'Atlantique, à Norfolk, en Virginie, et le second, à Ulm, en Allemagne, chargé d'appuyer la mobilité militaire en Europe. Nous adopterons aussi normalement une initiative pour la disponibilité opérationnelle de l'OTAN, initiative dite des 4x30. Il s'agit de veiller à ce que, d'ici 2020, nous disposions en permanence de 30 bataillons mécanisés, de 30 escadrilles aériennes et de 30 vaisseaux de combat à 30 jours de préavis maximum. Parce que nous vivons dans un monde plus imprévisible, nous devons être sûrs de disposer des forces nécessaires au bon endroit et au bon moment. Nous allons débattre de nos progrès dans de nombreux domaines, dont la cyberdéfense et la sécurité maritime. Et nous ferons le point sur nos efforts de relèvement des défenses de défense, et de répartition plus équilibrée du fardeau entre alliés. Plus tard cet après-midi, nous nous attarderons sur les efforts de notre alliance pour projeter la stabilité et lutter contre le terrorisme, entre autres en Irak. L'OTAN participe à la coalition internationale anti-Daesh sous la forme de vols de surveillance de nos AWACS et de l'entraînement des forces irakiennes. Au sommet du mois prochain, nous lancerons une nouvelle mission d'entraînement en Irak. Aujourd'hui, nous passerons en revue notre planification afin de veiller à ce que notre soutien soit le plus performant possible. Nous envisagerons aussi un appui supplémentaire à nos partenaires jordaniens et tunisiens. Demain, nous rencontrerons la haute représentante et vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, ainsi que nos collègues de la Finlande et de la Suède. Ensemble, nous discuterons de la coopération entre l'OTAN et l'Union européenne, qui sera un thème central du sommet de Bruxelles. La mobilité militaire pourrait, elle aussi, devenir une dimension importante de la coopération entre l'OTAN et l'UE. Et nous nous efforçons aussi ensemble d'identifier et d'éliminer les obstacles au déploiement rapide de forces en Europe. Nous conclurons par une réunion avec nos partenaires de la mission Resolute Support afin de discuter de notre mission en Afghanistan. Malgré des défis toujours d'actualité, les forces afghanes font un travail formidable et elles développent leurs capacités. Nous renforçons notre soutien sous la forme de moyens financiers et humains. Nous avons étoffé les effectifs de notre mission d'environ 3 000 formateurs supplémentaires et lors du sommet du mois prochain, je m'attends à ce que les alliés conviennent de reconduire le financement des forces afghanes jusqu'en 2024. Notre présence en Afghanistan aide les Afghans à stabiliser leur pays, à lutter contre le terrorisme international et à réunir les conditions d'une solution pacifique. Je salue le cessez-le-feu annoncé par le président Ghani et par le gouvernement d'Union nationale. C'est un pas positif, un pas en avant, dans la direction de la paix. L'OTAN soutient pleinement un processus de paix et de réconciliation par les Afghans, pour les Afghans. Merci pour votre attention. Je suis prêt à répondre à quelques questions.
Radio Free Europe.
Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Comme vous l'avez dit,
President Ghani announced a ceasefire with the Taliban for a short period of time.
Will this move
convince the Taliban to cease fighting and to come to the negotiating table? Thank you.
D'arrêter les combats et de s'asseoir à la table de négociation. L'annonce d'un cessez-le-feu montre le sérieux du président Ghani et du gouvernement afghan lorsqu'il s'agit de leurs efforts pour trouver une solution pacifique, négociée au conflit en Afghanistan. Et je salue cet engagement ferme envers la paix de la part du président Ghani. Dans le même temps, il faut comprendre que la situation en Afghanistan est difficile. Et c'est la raison pour laquelle l'OTAN va continuer d'apporter son soutien. Nous avons renforcé nos efforts en appui des Afghans par le biais de formateurs et de moyens financiers. La finalité de la présence de l'OTAN est de prévenir toute victoire des talibans sur le champ de bataille. Pour les talibans, la seule solution est de s'asseoir à la table des négociations. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer d'apporter notre soutien à l'Afghanistan. Et je ne peux qu'appeler les talibans à appliquer le cessez-le-feu, à déposer les armes et à entamer un dialogue constructif permettant de déboucher sur une solution négociée.
I've got two questions in terms of burden sharing. Germany recently offered 1.5%. Is that enough? And my second question is, you have the new command structure, the readiness initiative.
Et ensuite, vous avez parlé de la NCS et l'initiative de disponibilité opérationnelle. De qui l'OTAN a-t-elle peur? Tout d'abord, à propos du partage du fardeau, je me félicite du fait que les alliés européens et le Canada aient enfin mis un terme aux années de coupes budgétaires dans les dépenses militaires. Tous les pays ont arrêté de réduire leurs dépenses militaires, ils ont renversé la vapeur et de nombreux États annoncent des plans et des intentions visant à atteindre les 2% consacrés à la défense d'ici 2024. L'Allemagne a arrêté les coupes, elle a commencé à renverser la vapeur, elle a l'intention d'augmenter ses dépenses de défense de 80% sur une décennie. Ce sont des étapes, des pas dans la bonne direction, dont je me félicite, que je salue. C'est une tendance que l'on observe désormais en Europe et au Canada, où les alliés consacrent de plus en plus de moyens à leur défense. Plus tard aujourd'hui, je présenterai au ministre de la Défense les derniers chiffres en date, les projections de dépenses de défense en 2018. Je vous en parlerai également lors de ma prochaine conférence de presse qui portera sur la publication des chiffres de dépenses de défense au sein de l'Alliance. Sur la structure de commandement de l'OTAN, l'OTAN n'a pas peur, mais l'OTAN doit s'adapter. L'OTAN doit veiller à rester l'alliance de défense la plus fructueuse, la plus réussie de l'histoire. Et cela suppose de se préparer à faire face lorsque de nouveaux défis se présentent, lorsque le monde change. Et c'est le cas aujourd'hui. La Russie s'affirme, il y a de la violence, de l'instabilité au Proche-Orient, dans le nord de l'Afrique. Nous constatons la prolifération des armes de destruction massive et nous assistons aussi à une augmentation de la cybermenace. C'est la raison pour laquelle nous réagissons, nous adaptons notre structure de commandement avec le commandement de l'appui à la mobilité en Allemagne et le commandement pour l'Atlantique Nord.
Quelle est la réponse de l'OTAN inside Syria? Territory, you know, Turkey will begin the Manbij operation and Kandil operation.
Second question is about Iraq. What's exactly your plan in Iraq? Quels sont vos plans en Syrie et en Irak? En Irak, nous avons l'intention d'accélérer le mouvement sur la formation, parce que pour nous, le meilleur moyen de lutter contre le terrorisme, c'est d'entraîner, de former les forces locales. L'OTAN a déployé des opérations de combat importantes. Il est possible que nous soyons encore appelés à le faire, mais nous pensons qu'à long terme, la stratégie consistant à permettre aux forces locales de stabiliser leur propre pays et à lutter contre le terrorisme par elles-mêmes est la meilleure. C'est ce que nous faisons en Afghanistan, où nous formons, nous entraînons les forces afghanes. Et c'est ce que nous faisons désormais également en Irak, où nous allons renforcer les activités d'entraînement et de formation afin de préserver les acquis de la lutte contre Daesh, afin d'empêcher Daesh de revenir, de se rematérialiser sur le terrain, afin de stabiliser ces deux pays et d'empêcher Daesh de revenir. Votre autre question porte sur la Turquie et le nord de la Syrie, sur Manbij. L'OTAN fait partie de la coalition internationale anti-Daesh, mais l'OTAN n'est pas présente sur le terrain dans le nord de la Syrie. Certains alliés le sont, les États-Unis, la Turquie. Nous nous félicitons que les États-Unis et la Turquie, deux alliés de l'OTAN, se soient mis d'accord sur une feuille de route visant à résoudre les enjeux que pose, entre autres, la zone de Manbij, la situation à Manbij, parmi les sujets dont j'ai parlé avec le président Erdogan lorsque je l'ai rencontré récemment à Ankara. Et c'est également l'un des thèmes abordés avec le président Trump à la Maison-Blanche il y a quelques semaines. L'OTAN n'est donc pas directement impliquée, mais des alliés, membres de l'OTAN, le sont. Et je me félicite que la Turquie et les États-Unis œuvrent désormais ensemble afin de faire face aux enjeux dans le nord de la Syrie.
Good morning. Nourdine from the Arabian News Channel. The defense minister of Qatar said in an interview that his country is looking for full membership, and he was not joking about that. It may require, let's say, an official reaction from your side.
And a
question about the situation in Iraq. The political situation is becoming more complex after the election.
The
election committee members are forbidden to leave the country. Are you worried that the political circumstances may require you maybe to delay the mission, or are you confident after your contact with Mr. Abadi and the Iraqi representative that the mission will be launched in the summit. Thank you.
Avez-vous confiance à la possibilité de lancer cette mission lors du sommet? Nous sommes présents en Irak par le biais d'une activité d'entraînement et de formation suite à une invitation lancée par le gouvernement irakien. Il est trop tôt pour prévoir quel gouvernement sortira des urnes et des élections en Irak, mais nous ne resterons en Irak et nous n'y renforcerons nos efforts d'entraînement et de formation que si nous y sommes les bienvenus, si nous continuons d'y être les bienvenus. Nous n'avons pas d'indication selon lesquelles l'Irak souhaiterait renoncer à l'appui de la coalition internationale anti-Daesh ou de l'OTAN. Donc notre mission continue de se préparer. Nous avons bel et bien l'intention de lancer une mission d'entraînement et de formation en Irak lors du sommet. Et votre seconde question portait sur la déclaration du ministre de la Défense du Qatar. Mais le Qatar est partenaire de l'Alliance. Nous nous félicitons de ce partenariat. Nous avons plusieurs pays partenaires dans la région du Golfe. Et nous saluons ce partenariat. Mais l'OTAN est une alliance qui concerne l'Europe et l'Amérique du Nord. Cela figure à l'article 10 du traité fondateur de l'OTAN. Donc, pour adhérer à l'OTAN, il faut faire partie du continent européen ou de l'Amérique du Nord. Et c'est une alliance qui n'a pas vocation à s'étendre géographiquement.
Federica
une dernière question.
Inman from TV2 Denmark.
TV2
It's
Danemark.
Not a secret that today a lot of European countries and
aujourd'hui,
the EU is in a sort of
infight
with President Trump on a number of very important international issues such as Iran and the ongoing trade war. So what makes you believe
L'Iran,
today that the 29 NATO countries can actually get
pensez-vous
something constructive
les
out of today's meeting and sort of
à,
put their differences aside?
Sortir quelque chose de positif de cette rencontre et à mettre leurs différences de côté. Mais nous avons des désaccords au sein de l'Alliance. C'est vrai, les pays qui composent cette Alliance ne sont parfois pas d'accord sur tout, dans tous les domaines, mais nous sommes tous d'accord sur les questions de défense et sur la nécessité d'être unis. C'est vrai que nous ne sommes pas nécessairement d'accord sur les questions commerciales, sur l'accord sur le nucléaire iranien, sur le changement climatique. Au sein de l'Europe elle-même, il y a parfois des divergences de vues quant à l'avenir de l'Union. Mais ce n'est pas neuf. Des différences entre alliés de l'OTAN, il y en a toujours eu. Lors de la crise de Suez, dans les années 50, il y avait des divergences profondes entre divers alliés de l'OTAN. Et lors de la crise en Irak en 2003, les membres de l'OTAN pouvaient avoir des positions très différentes. c'est sérieux, il faut s'en préoccuper, mais l'histoire nous montre et nous démontre que, l'OTAN sait rester unie autour de ses tâches fondamentales et assurer la défense collective, la dissuasion nécessaire à notre protection mutuelle. Et je pense que c'est ce qui se passera aussi aujourd'hui et demain lors de cette réunion des ministres de la Défense. Nous procédons actuellement au renforcement le plus ambitieux de notre dissuasion et de notre défense depuis la fin de la guerre froide. Nous renforçons notre lutte contre le terrorisme malgré nos différences et les alliés relèvent leurs dépenses de défense malgré ces différences. Les États-Unis renforcent actuellement leur présence militaire en Europe et le Canada revient en Europe. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des divergences de vues entre alliés sur des questions spécifiques telles que le commerce. Mais dans le domaine de la défense, l'OTAN parvient à renforcer la collaboration, renforcer le lien transatlantique via un renforcement de la présence des États-Unis et maintenant du Canada en Europe et via le relèvement des dépenses de défense des alliés européens. Et donc l'OTAN est plus forte depuis quelques années maintenant, malgré ces différences. Merci beaucoup. Ceci conclut cette première intervention. Nous nous retrouverons pour la prochaine conférence de presse à 18h15.